Ivanhoé, chapitre 6. Le pèlerin, éclairé par un domestique qui tenait une torche à la main, traversa la file tortueuse d'appartements de cette grande et irrégulière maison. Les chansons qui le suivaient lui dit à l'oreille que s'il désirait prendre une tasse de bon hydromel dans sa chambre, il y aurait plus d'un domestique dans ce manoir qui serait content d'entendre les nouvelles qu'il apportait de la Terre Sainte, et surtout celle qui se rattachait au chevalier Ivanhoé. Wamba, peu de temps après, parut et appuya l'invitation, en faisant observer que, une fois minuit sonné, une tasse d'hydromel en valait trois avant le couvre-feu. Sans discuter une maxime énoncée par une autorité si grave, le pèlerin les remercia de leur politesse, mais il répondit qu'il avait compris dans ses vœux religieux l'obligation de ne jamais parler dans la cuisine de choses prohibées dans la salle du maître. « Voilà un vœu, » dit Wamba à l'échanson, « qui conviendrait peu à un domestique. » L'échanson, contrarié, haussa les épaules. « Je voulais le loger dans une bonne chambre, » se dit-il, « mais puisqu'il est si peu sociable avec les chrétiens, je le mettrai dans la niche à côté de celle d'Isaac le juif. » « Anwald, » ajouta-t-il en s'adressant à celui qui portait la torche, « conduisez le pèlerin dans la cellule du midi. Je vous donne le bonsoir, messire pèlerin, sans vous remercier toutefois de votre peu de complaisance. » « Bonsoir, et que Notre-Dame vous bénisse, » dit le pèlerin, calme et suivant son guide. Dans une étroite antichambre où donnaient plusieurs portes et qui était éclairée par une petite lampe de fer, ils furent accostés par une des femmes de Rowena, qui dit d'un ton d'autorité que sa maîtresse voulait parler au pèlerin. Elle prit la torche des mains d'Anwald, à qui elle ordonna d'attendre son retour, et fit signe au pèlerin de la suivre. Celui-ci ne jugea apparemment pas à propos de décliner cette seconde invitation comme il avait fait de la première, car bien que son geste trahît une légère surprise, il obéit sans répondre et sans hésiter. Après avoir traversé un petit couloir terminé par un escalier composé de 7 marches, formées chacune d'une grosse poutre en chêne, il arriva à l'appartement de Lady Rowena, dont la magnificence était en harmonie avec le respect que lui témoignait le châtelain. Les parois étaient recouvertes de tentures brodées avec de la soie mêlée de fils d'or, et où tout l'art du siècle avait été prodigué pour y représenter des scènes de chasse et des jeux de faucons. Le lit était aussi richement tapissé et entouré de rideaux teints en pourpre. Les sièges étaient également recouverts d'étoffes teintes, et l'un d'eux, un peu plus élevé que les autres, avait à sa partie basse un tabouret d'ivoire, curieusement sculpté. 4 candélabres d'argent, supportant de grands cierges de cire, éclairaient cet appartement. Il ne faut pas, toutefois, que nos beautés modernes envient le luxe d'une princesse saxonne. Les murs de la chambre étaient si mal recrépis et si pleins de crevasses que les riches tentures s'agitaient sous la bise, et bien que garantie par une espèce de paravent, la flamme des torches penchait de côté, comme le guidon déroulé d'un chef de clan. La magnificence régnait là, avec une vaine tentative de goût. Mais quant au confort, il y en avait peu. Et comme on ne le connaissait pas, on n'en sentait pas le besoin. Lady Rowena, entourée de 3 suivantes qui se tenaient derrière elle, occupées à peigner ses cheveux avant le coucher, était assise sur l'espèce de trône dont nous avons déjà parlé et paraissait née pour commander l'hommage de tous. Le pèlerin lui paya ce tribut par une profonde génuflexion. « Relevez-vous, pèlerin, » lui dit-elle gracieusement. « Le défenseur des absents a le droit d'être bien accueilli par tous ceux qui estiment la vérité et qui honorent la vaillance. « Retirez-vous toutes, » dit-elle ensuite à ses femmes, à l'exception d'Elgita. « J'ai à parler à ce saint homme. » Les jeunes filles, sans quitter l'appartement, se retirèrent à son extrémité et s'assirent sur une banquette adossée au mur, où elles restèrent immobiles comme des statues. Bien qu'à cette distance, leur chuchotement n'eût pu interrompre la conversation de leur maîtresse. « Pèlerin, » dit Lady Rowena après un moment de silence, pendant lequel elle semblait hésiter sur la façon dont elle lui adresserait la parole. « Ce soir, vous avez cité un nom, je veux dire le nom d'Ivanhoé, » ajouta-t-elle avec une sorte d'effort. « Dans une salle où, grâce aux liens de la nature et de la parenté, il eût dû raisonner plus agréablement. Cependant, telle est l'injustice du sort, que parmi tous les cœurs qui ont dû palpiter à ce nom, le mien seul ose vous demander en quel endroit et dans quelles conditions vous avez quitté celui dont vous parliez. Nous avons appris qu'obligé de rester en Palestine pour cause de santé, après le départ de l'armée anglaise, il s'est trouvé en butte aux persécutions du parti français, auquel on sait que les Templiers sont dévoués. « Je ne sais que peu de choses du chevalier Ivanhoé, » répondit le pèlerin d'une voix troublée. « Je voudrais le mieux connaître, madame, puisque vous vous intéressez à son sort. Il a, je crois, triomphé de ses ennemis en Palestine, et il se disposait à revenir en Angleterre, où vous, madame, devez savoir mieux que moi quelles sont ses chances de bonheur. » Lady Rowena soupira profondément et demanda avec plus d'insistance à quelle époque on pourrait attendre le chevalier Ivanhoé dans son pays natal et s'il ne courait pas de grands risques en route. Sur la première question, le pèlerin avoua son ignorance. À la seconde, il répondit que le voyage pouvait se faire en sûreté par Venise et Gênes, et de là par la France et l'Angleterre. Ivanhoé, suivant lui, connaissait si bien la langue et les usages des Français qu'il n'avait rien à redouter pendant cette partie de ses voyages. « Plût à Dieu, » dit Lady Rowena, « qu'il fût ici en sûreté et assez rétabli pour porter les armes dans le prochain tournoi, où la chevalerie de ce pays doit faire preuve d'adresse et de valeur. Si Athelstan de Königsbourg obtient le prix, il est probable qu'Ivanhoé apprendra de mauvaises nouvelles en arrivant en Angleterre. Quelle mine avait-il la dernière fois que vous le vîtes? La maladie avait-elle pesé lourdement sur sa force et sa beauté?
Il était devenu plus brun et plus maigre, dit le pèlerin, qu'à l'époque de son retour de l'île de Chypre, où il avait suivi Richard Cœur de Lion, et les soucis paraissaient siéger sur son front. Mais je ne me suis pas approché de sa personne, parce qu'il m'est inconnu.
« Je crains bien, » dit la dame, « qu'il ne trouve que peu de motifs dans sa terre natale pour dissiper les nuages de sa tristesse. Je vous remercie, bon pèlerin, de vos renseignements concernant le compagnon de mon enfance. « Jeune fille, » ajouta-t-elle, « approchez, « offrez la coupe du soir à ce saint homme que je ne veux pas priver plus longtemps de son repos. » Une des jeunes filles présenta une coupe d'argent qui contenait un riche breuvage de vin épicé. Rowena la toucha seulement de ses lèvres. Ensuite, on l'offrit au pèlerin, qui, après un profond salut, en but quelques gouttes. « Acceptez cette aumône, mon ami !» continua la dame en lui offrant une pièce d'or. Pour récompenser vos rudes fatigues et les visites que vous avez faites aux saints autels. » Le pèlerin reçut cette offrande avec un nouveau salut et sortit en suivant Elgita. Il trouva dans l'antichambre le serviteur Anwold, qui, après avoir pris la torche des mains de la jeune fille, le conduisit avec plus d'empressement que de cérémonie dans une partie écartée et peu commode du manoir, où un grand nombre de petites chambres, ou cellules, servaient de dortoirs aux domestiques de bas étage et aux étrangers de la dernière classe. « Dans laquelle de ces chambres couche le juif ?» demanda le pèlerin. « Ce chien de mécréant, » répondit Anwold, « niche dans la cellule à côté de votre sainteté. Par Saint Durnstan, comme il faudra la gratter et la nettoyer pour qu'elle puisse servir à un chrétien. »
« Et où couche le porcher Goethe ?» demanda l'étranger.
« Goethe, répliqua le cerf, dort dans la cellule à votre droite, comme le juif dans celle à votre gauche. Vous servez de séparation entre l'enfant circoncis et l'objet de l'abomination de sa tribu. Vous auriez pu occuper une chambre plus honorable si vous aviez accepté l'invitation d'Oswald. »
« C'est bien ainsi, dit le pèlerin. La société même d'un juif ne saurait être contagieuse à travers une cloison de chêne. »
En parlant ainsi, il entra dans la cellule qui lui était désignée, et prenant la torche aux mains du domestique, il le remercia et lui souhaita le bonsoir. Ayant refermé la porte de sa cellule, il plaça la torche dans un chandelier de bois et examina sa chambre à coucher, dont l'ameublement était de la plus simple espèce. Il se composait d'un grossier tabouret de bois et d'un lit encore plus mesquin, rempli de paille propre, sur laquelle on avait posé deux ou trois peaux de mouton en guise de couverture. Le pèlerin, ayant éteint sa torche, se jeta tout habillé sur cette couche grossière et dormit, ou du moins demeura couché jusqu'à ce que les premiers rayons du jour pénétrassent à travers la petite fenêtre grillée qui servait à donner accès à la fois à l'air et à la lumière dans cette triste cellule. Il se mit alors sur son séant, récita ses matines, et, ayant arrangé sa toilette, il sortit et entra dans l'appartement du juif Isaac, en levant le loquet aussi doucement que possible. Le juif était étendu sur une couche pareille à celle du pèlerin. Son sommeil était agité. Ses vêtements, qu'il avait ôtés la veille, étaient disposés soigneusement sous lui, de manière à empêcher qu'on ne les emportât durant son sommeil. On voyait sur son front une agitation qui touchait à l'agonie. Ses mains et ses bras se tordaient convulsivement comme ceux d'un homme en proie au cauchemar, et, outre plusieurs exclamations en langue hébraïque, on entendit distinctement les phrases suivantes en anglo-normand, la langue mêlée du pays. « Pour l'amour du Dieu d'Abraham, ayez pitié d'un malheureux vieillard. Je suis pauvre, je suis sans un penny. Lors même que vos fers m'arracheraient les membres, je ne saurais vous satisfaire. » Le pèlerin ne voulut pas attendre la fin du rêve du juif. Il le secoua du bout de son bâton de pèlerin. Cet attouchement s'associait probablement avec quelques-unes des terreurs, objets de son rêve, car le vieillard se redressa. Ses cheveux gris se hérissèrent sur sa tête et, se hâtant de se couvrir d'une partie de ses vêtements, dont il retenait les diverses pièces avec la ténacité d'un faucon, il fixa sur le pèlerin ses yeux noirs et pénétrants avec une expression de sauvage étonnement et de timidité nerveuse. « Ne craignez rien de ma part, Isaac, lui dit le pèlerin. Je viens en ami. »
« Que le Dieu d'Israël vous récompense !» s'écria le Juif grandement soulagé.
« Je rêvais, mais qu'Abraham en soit loué, ce n'était qu'un rêve !»
Ensuite, se recueillant, il ajouta d'un ton de voix ordinaire. « Et vous-même, que désirez-vous à cette heure matinale d'un pauvre Juif ?»«
C'est pour vous apprendre, » dit le pèlerin, que si vous ne quittez pas cette maison à l'instant, et si vous ne vous hâtez pas, votre voyage pourra vous faire courir de grands dangers.
« Père éternel, dit le juif, qui pourrait trouver du profit à mettre en péril un être aussi misérable que moi ?»«
C'est à vous de deviner leurs intentions, dit le pèlerin, mais comptez sur ceci. Lorsque le templier a traversé la salle hier au soir, il a dit à ses esclaves musulmans quelques mots en langue sarrasine, que je comprends parfaitement. Il leur a enjoint de guetter ce matin le départ du juif, de s'emparer de lui à quelque distance du manoir, et de le conduire au château de Philippe de Malvoisin, ou à celui de Réginald Front de Bœuf. Il serait impossible de dépeindre l'extrême terreur dont le juif fut saisi à cette annonce. Il paraissait avoir perdu toutes ses facultés.
Ses bras pendaient le long de son corps et il laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Ses genoux plièrent sous son poids. Tous ses muscles semblèrent se raccourcir et perdre de leur vigueur. Il tomba aux pieds du pèlerin, non pas comme un homme qui se baisse, s'agenouille ou se prosterne de son propre mouvement pour éveiller la compassion, mais pareil à celui qui, accablé de tous côtés par la pression d'une force invisible, se sent écrasé sans pouvoir se défendre. « Saint Dieu d'Abraham ! » s'écria-t-il en élevant ses mains ridées et fermées, mais sans redresser sa tête grise qui touchait le sol. « Oh, Moïse, oh, pieux Aaron, je n'ai pas rêvé en vain, et la vision ne s'est pas non plus présentée vainement. Je sens déjà leur fer qui me disloque les articulations. Je sens la torture passer sur mon corps comme les scies et les haches sur les hommes de Rabat et les enfants d'Ammon. Levez-vous, Isaac, et écoutez-moi, dit le pèlerin, qui contemplait cette détresse complète avec une pitié à laquelle se mêlait largement le mépris. Vos terreurs ne sont pas sans motif, quand on considère comment vos frères ont été traités par les princes et les seigneurs afin de leur extorquer leurs trésors. Mais levez-vous, vous dis-je, et je vous indiquerai le moyen de fuir. Quittez sur le champ cette maison, pendant que tout le monde s'y repose du festin d'hier au soir. Je vous guiderai par les sentiers secrets de la forêt, que je connais aussi bien que les gardes qui les parcourent, et je ne vous quitterai pas que vous n'ayez trouvé un protecteur dans quelque chef ou baron se rendant au tournoi, et dont vous avez probablement le moyen de vous assurer la bienveillance. » À mesure qu'Isaac entendait parler de la délivrance que ce discours annonçait, il commença à se lever de terre graduellement, et, pour ainsi dire, pouce par pouce, jusqu'à ce qu'il se trouvât à genoux. Jetant en arrière sa longue chevelure et sa barbe grise, et fixant ses yeux noirs et pénétrants sur la figure du pèlerin, il lui lança un regard rempli tout ensemble de crainte et d'espérance, mêlé toutefois d'une teinte de soupçon. Puis, lorsqu'il entendit la conclusion de la phrase, sa première terreur parut revivre avec force, et il se laissa retomber le visage contre terre en s'écriant « Moi, posséder les moyens de m'assurer la bienveillance ? Hélas, il n'y a qu'une voie pour parvenir au cœur d'un chrétien. Et comment un pauvre juif peut-il la trouver, quand les extorsions l'ont déjà réduit à la misère de Lazare ?» Alors, comme si le soupçon avait anéanti toutes ses autres facultés, il s'écria tout à coup. « Pour l'amour de Dieu, jeune homme, ne me trahissez pas. Pour l'amour du Créateur qui nous a tous créés, juifs comme gentils, israélites comme ismaélites, ne me trahissez pas. Je n'ai pas les moyens de m'assurer la bienveillance d'un mendiant chrétien quand il la fixerait à un seul penny. » En disant ces derniers mots, il releva et saisit le manteau du pèlerin avec un regard suppliant. Le pèlerin se dégagea de l'étreinte, comme s'il y avait une souillure dans cet attouchement. « Serais-tu chargé de tous les trésors de ta tribu ? » dit-il. « Quel intérêt aurais-je à te nuire ? Sous cet habit, je suis voué à la pauvreté, et je ne te l'échangerai point, si ce n'est contre un cheval et une côte de maille. Cependant, je ne pense pas que je me soucie de ta société ou que j'y vois le moindre profit pour moi. Reste ici, si tu veux. Le Saxon Cédric saura te protéger. » Hélas, dit le Juif, il ne me souffrira pas dans son cortège. Saxon ou Normand sera également honteux du pauvre Israélite. Mais pourtant, traverser seul les domaines de Philippe de Malvoisin ou de Réginald de Front de Bœuf. Brave jeune homme, je vous accompagnerai. Hâtons-nous, saignons nos reins, fuyons. Voici votre bâton. Que tardez-vous ? « Je ne tarde pas, » répondit le pèlerin cédant à l'impatience de son compagnon. « Mais il faut que je m'assure des moyens de quitter ces lieux. Suis-moi. » Il le précéda jusqu'à la cellule voisine, que le lecteur sait être occupée par Goethe le porcher. « Lève-toi, Goethe, » dit le pèlerin. « Lève-toi à l'instant, ouvre la poterne et laisse sortir le juif et moi. » Goethe, dont l'emploi si abject qu'il nous paraisse aujourd'hui, lui donnait autant d'importance dans l'Angleterre saxonne que celui de Mai en donnait à celui-ci à Ithac, Goethe s'offensa du ton familier et impérieux adopté par l'homme qui lui parlait. « Quoi ? C'est le juif qui s'en va de Rottenwood ? » dit-il en s'appuyant sur son coude et l'examinant avec dédain sans quitter son grabat. « Et qui plus est, voyage en société avec le pèlerin ?» Je ne me serais pas plus attendu à cela qu'à le voir se dérober en emportant un quartier de l'art, dit Wamba, survenant en ce moment. Quoi qu'il en soit, dit Goethe en se rejetant sur le billot de bois qui lui servait d'oreiller, le juif et le gentil devront se contenter d'attendre l'ouverture de la grande porte d'entrée. Nous ne permettrons à aucun étranger de sortir secrètement à des heures indues. Cependant, dit le pèlerin d'un ton d'autorité. « Je ne pense pas que vous me refusiez cette grâce. » En disant cela, il s'inclina sur le lit du porcher et dit quelques mots à l'oreille du Saxon. Goethe se redressa comme s'il eût été secoué par une machine électrique. Alors le pèlerin, posant le doigt sur sa bouche, comme pour lui recommander la prudence, ajouta. « Fais attention, Goethe, tu es prudent habituellement. « Ouvre la poterne, te dis-je. Tout à l'heure, tu en sauras davantage. » Goethe lui obéit avec un vif empressement, pendant que Wamba et le juif les suivaient, étonnés tous deux du changement subit qui s'était opéré dans le maintien du porcher. « Ma mule ! Ma mule ! » dit le juif dès qu'ils se trouvèrent hors de la poterne. « Donne-lui sa mule, » dit le pèlerin, « et écoute. » « Fais que j'en trouve une autre jusqu'à ce que j'aie quitté les environs. Je la remettrai saine et sauve à quelqu'un des gens de Cédric, à Asby et toi. » Et il acheva la phrase à l'oreille de Goethe. « Volontiers, » dit Goethe, « très volontiers, ce sera fait. » Et il partit aussitôt pour exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir. « Je voudrais savoir, » dit Wamba dès que son camarade eut tourné le dos, « ce que, vous autres pèlerins, vous apprenez dans la Terre Sainte ?»«
À dire nos oraisons, bouffon !» répondit le pèlerin. « À nous repentir de nos péchés, et à nous mortifier par les jeûnes, les veilles et les longues prières. »«
Vous apprenez des choses plus fortes que cela, » répondit Wamba. « Car comment la prière et le repentir auraient-ils pu engager Goethe à être serviable ?» Et comment le jeûne et l'éveil eussent-ils pu lui persuader de vous prêter une mule? Sans cela, je suis certain que vous auriez pu tout aussi bien parler de veille et de pénitence à son verra noir favori, et que vous en eussiez obtenu une réponse aussi honnête que la sienne.
« Silence !» dit le pèlerin. « Tu n'es qu'un fou saxon. »«
Tu as raison, » dit le bouffon. « Si j'étais né normand, comme je pense que tu l'es, j'aurais eu le bonheur de mon côté, et j'eusse été presque un homme sage. »
En ce moment, Goethe parut sur l'autre bord du fossé avec les mules. Les voyageurs le traversèrent sur un pont-levis de la largeur de deux planches seulement, qui le mettait en rapport avec la poterne et un petit guichet pratiqué dans la palissade extérieure, donnant sur la forêt. Dès qu'ils se furent approchés des mules, le juif, les mains frémissantes, assura derrière la selle un petit sac de drap gommé qu'il sortit de dessous son manteau et qui contenait, d'après lui, des habits de rechange, rien que des habits de rechange. Alors, enfourchant la bête avec plus de prestesse qu'on aurait dû en attendre de son âge, il s'empressa de disposer les pans de sa houppelande de manière à cacher complètement le paquet qu'il venait de placer en coupe. Le pèlerin monta à cheval avec plus de lenteur et tendit en partant sa main à Goethe, qui la baisa avec toute la vénération possible. Puis le porcher suivit des yeux les voyageurs, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu sous les arbres de la forêt. Enfin, il fut tiré de sa rêverie par la voix de Wamba.
« Sais-tu, mon bon ami Goethe ? » dit le bouffon.
que tu es singulièrement poli et bien plus pieux qu'à l'ordinaire par cette belle matinée d'été. Je voudrais être un pèlerin à pieds nus pour profiter de ton zèle et de ta courtoisie peu commun. Certainement, j'en tirerai autre chose qu'un baiser sur la main, moi. »
Tu n'es pas fou cette fois, Wamba, répondit Gert, bien que tu aies raison d'après les apparences. Mais le plus sage parmi nous ne peut faire davantage. Mais il est temps de veiller à mes porcs. »
En disant ces mots, il se dirigea vers la maison, suivi du bouffon. Sur ces entrefaites, les voyageurs poursuivaient leur route avec une rapidité que conseillaient les craintes extrêmes du juif, car on voit rarement des personnes de son âge aimer les allures vives. Le pèlerin, à qui tous les sentiers et toutes les issues du bois paraissaient familiers, prit le devant en suivant les chemins les plus détournés. Ce qui fit naître de nouveau dans l'esprit de l'Israélite l'idée qu'on allait le trahir et le livrer à ses ennemis. Ses doutes, à la vérité, étaient excusables. Car, à l'exception peut-être des poissons volants, il n'existait pas de race, ni sur la terre, ni dans l'air, ni dans l'eau, qui fût l'objet d'une persécution aussi incessante, aussi générale et aussi implacable que celle qui poursuivait les Juifs de cette époque. Sous les prétextes les plus futiles et les plus déraisonnables, ainsi que sur les accusations les plus absurdes et les plus vaines, leurs personnes et leurs biens étaient abandonnés à tous les caprices de la fureur populaire. Car les Normands, les Saxons, les Danois et les Bretons, si hostiles qu'ils fussent les uns aux autres, rivalisaient de férocité envers une nation que chacun se faisait un devoir de haïr, de vilipender, de mépriser, de piller et de persécuter. Les rois de la race normande et les seigneurs indépendants qui les imitaient dans tous leurs actes de tyrannie maintenaient contre cette nation sacrifiée une persécution permanente et intéressée. On raconte une histoire très connue du roi Jean, qui emprisonna un juif opulent dans un des châteaux royaux et lui fit arracher chaque jour une dent, jusqu'à ce que la mâchoire du malheureux Israélite fût à moitié dégarnie, et qu'il se résignât à payer une forte somme que ce tyran s'était proposé de lui extorquer. Le peu d'argent comptant qu'il y eut dans le pays se trouvait principalement entre les mains de cette race persécutée, et le peuple n'hésita pas à suivre l'exemple de son souverain pour le lui arracher par tous les moyens d'oppression et de coercition. Cependant, le courage passif qu'inspire l'amour du lucre, engagea les Juifs à braver tous les maux qu'on leur infligeait, à cause des bénéfices immenses qu'ils étaient à même de réaliser dans un pays naturellement aussi riche que l'Angleterre. Malgré tous les genres de découragement, et même en dépit de la cour spéciale des contributions déjà mentionnées, qu'on appelait l'échiquier des Juifs, et qui avait été établi dans l'intention expresse de les dépouiller et de les mettre à la gêne, les Juifs multipliaient et entassaient des sommes énormes qu'ils transféraient de main en main au moyen de lettres de change, invention dont le commerce, dit-on, leur est redevable, et qui leur fournissait la faculté de faire circuler leurs richesses de pays en pays, afin que, lorsque le despotisme les menaçait dans une contrée, le trésor se trouvât à l'abri dans une autre. L'avarice et l'opiniâtreté des Juifs étant ainsi opposées, en quelque sorte, au fanatisme et à la tyrannie de ceux sous lesquels ils vivaient, semblaient croître en proportion de la persécution dont ils étaient l'objet. Et les richesses immenses qu'ils amassaient ordinairement dans le commerce, bien que souvent exposées au danger, furent en d'autres occasions employées pour étendre leur influence et pour leur procurer une sorte de protection. Telles étaient les conditions sous lesquelles vivaient les Juifs, et leur caractère ainsi violenté les avait rendus vigilants, soupçonneux et timides, aussi bien qu'opiniâtres,
peu complaisants et habiles à éviter les dangers auxquels ils étaient exposés. Après que nos voyageurs eurent parcouru rapidement plusieurs sentiers détournés, le pèlerin rompit enfin le silence. « Ce grand chêne mort, dit-il, indique les dernières limites des domaines de Front de Bœuf. Depuis longtemps, nous avons quitté ceux de Malvoisin. Vous n'avez plus rien à craindre de leur poursuite. »
« Que les roues de leurs chariots soient enlevées, dit le juif, comme celles du pharaon, afin qu'ils avancent lentement. Mais ne me quittez pas, bon pèlerin. Songez seulement à ce féroce et sauvage templier avec ses esclaves sarrasins, qui ne respecteraient ni territoire, ni manoir, ni domaine seigneurial.
Notre route commune, dit le pèlerin, devrait finir ici, car il ne convient pas aux personnes de mon caractère et du tien de voyager ensemble plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Ensuite, quel secours pourrais-tu attendre de moi, paisible pèlerin, contre des païens armés ?
Oh, brave jeune homme, dit le juif, tu peux me défendre, et je sais que tu en as la volonté. Tout pauvre que je suis, je te récompenserai. Non pas avec de l'argent, car pour de l'argent, j'en prends notre père Abraham à témoin, je n'en ai pas.
Argent et récompense, interrompit le pèlerin, je t'ai déjà dit que je ne t'en demandais pas. Je peux te servir de guide. Il se peut même que je puisse en quelque sorte te défendre. Car défendre un juif contre un sarrasin ne peut être considéré comme indigne d'un chrétien. C'est pourquoi, juif, je veux te voir à l'abri, sous la protection d'une escorte convenable. Nous ne sommes plus maintenant très éloignés de la ville de Sheffield, où tu pourras facilement trouver bon nombre de tes frères, parmi lesquels tu n'auras qu'à te réfugier.
Que la bénédiction de Jacob descende sur toi, brave jeune homme, dit le juif. À Sheffield, je puis loger chez mon parent Zareth et trouver le moyen de continuer mon voyage sans péril.
Soit, dit le pèlerin, nous nous séparerons à Sheffield, et une course d'une demi-heure nous mènera en vue de cette ville. La demi-heure se passa dans un silence complet de part et d'autre. Le pèlerin, dédaignant peut-être d'adresser la parole aux juifs, hormis dans les cas d'absolue nécessité, et le juif ne présumant pas devoir forcer à la conversation une personne au caractère de laquelle le voyage au Saint-Sépulcre prêtait une sorte de sainteté. Ils s'arrêtèrent sur le sommet d'une petite colline, et le pèlerin, montrant au juif la ville de Sheffield qui s'étendait sous leurs pieds, lui dit ces mots. « Ici donc, nous nous séparons. »
« Pas avant que vous ayez reçu les remerciements du pauvre juif, dit Isaac, car je n'ose vous prier de m'accompagner chez mon parent Zareth, qui pourrait me fournir quelques moyens de reconnaître vos bons offices. »
« Je t'ai déjà dit, répondit le pèlerin, que je ne désirais pas de récompense. Cependant, si parmi la longue liste de tes débiteurs, tu veux, par amour pour moi, épargner les fers et le donjon à quelque malheureux chrétien qui soit entre tes griffes, je regarderai le service que je t'ai rendu ce matin comme amplement payé.
Attendez, attendez,
dit le juif en saisissant le manteau du pèlerin. Je voudrais faire plus que cela. Je voudrais faire quelque chose pour vous. Dieu sait que le juif est pauvre. Oui, Isaac est un mendiant parmi ses frères. Mais pardonnez-moi si je devine ce qui vous faut en ce moment.
Si tu devines juste, dit le pèlerin, c'est une chose que tu ne saurais me fournir. Quand même, tu serais aussi riche que tu te dis pauvre.
Que je me dis, répéta le juif.
Oh, croyez-moi, je ne dis que la vérité. Je suis un homme dépouillé, chargé de dettes, misérable. Des mains implacables m'ont arraché mes biens, mon argent, mes vaisseaux et tout ce que je possédais. Cependant, je peux vous dire ce qui vous manque et peut-être vous le procurer. Vous désirez un cheval et une armure. »
Le pèlerin tressaillit et, se tournant brusquement vers le juif,
«
Quel démon t'a suggéré cette pensée ? Dit-il vivement.
« N'importe, dit le juif en souriant, pourvu qu'elle soit vraie, et de même que je devine ce qui te manque, je puis te le faire avoir. »
« Réfléchis, dit le pèlerin, à mon caractère, à mon habit, à mon vœu.
« Je vous connais, vous autres chrétiens, répondit le juif.
Les plus nobles d'entre vous prennent le bâton et la sandale pour accomplir leur pénitence superstitieuse et visiter à pied les tombeaux des morts.
« Ne blasphème pas, juif !» dit le pèlerin d'un ton fier.
« Pardonnez-moi, reprit Isaac, j'ai parlé avec précipitation. Toutefois, il vous est échappé cette nuit et ce matin quelques paroles qui, pareilles aux étincelles qui jaillissent du briquet, ont trahi le métal. Et sous cette robe de pèlerin se cachent la chaîne et les éperons d'or du chevalier. Ils se sont révélés ce matin quand vous vous penchâtes sur mon lit. »
Le pèlerin ne put s'empêcher de sourire. « Si tes vêtements étaient fouillés, Isaac, par un œil aussi curieux, ajouta-t-il,
que n'y découvrirait-on pas ? » ?»«
Ne parlons pas de cela, dit le juif en pâlissant et tirant à la hâte une écritoire de sa ceinture.
Puis, comme pour mettre un terme à la conversation, il commença à écrire quelques mots sur un morceau de papier soutenu par son bonnet jaune et sans descendre de sa mule. Quand il eut fini, il donna le papier sur lequel il avait tracé des caractères hébraïques au pèlerin en lui disant « Dans la ville de Leicester, tous les hommes connaissent le juif opulent Kirgat Shairam de Lombardie. Donne-lui cet écrit. Il a à vendre 6 armures de 1000 ans, dont la moindre conviendrait à une tête couronnée. 10 bons coursiers, dont le moins bon est digne d'un roi combattant pour son trône. Il te laissera choisir parmi ses armures et ses chevaux, et te donnera tout ce qu'il faut pour t'équiper pour ce tournoi. Quand le tournoi aura eu lieu, tu les lui remettras en bon état, à moins que tu n'aies de quoi en payer le prix au marchand.
« Mais, Isaac, dit le pèlerin en souriant, ne sais-tu pas que, dans ces jeux, les armes et le coursier du cheval désarçonné sont alloués aux vainqueurs ? Je puis être malheureux et perdre ainsi ce que je ne saurais ni rendre ni payer. »
Le juif parut un peu stupéfait de cette hypothèse, mais, rassemblant son courage, il reprit à la hâte.
« Non, 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 c'est impossible, je ne veux pas le croire. La bénédiction de notre père Abraham sera sur toi. Ta lance sera aussi puissante que la baguette de Moïse. »
« Isaac, dit le pèlerin, tu ne connais pas tout le risque que tu cours. On peut tuer le cheval. L'armure peut être endommagée, car je ne veux épargner ni cheval ni homme. Puis les hommes de ta tribu ne donnent rien pour rien. » Il faudra payer quelque chose pour l'emprunt des harnais et du cheval. » Le juif se tordit sur sa selle comme un homme pris d'un accès de colique, mais ses bons sentiments l'emportèrent sur ceux qui lui étaient familiers.
« Cela m'est égal, dit-il, laisse-moi partir. S'il t'arrive dommage, cela ne te coûtera rien. S'il y a quelque chose à payer pour cela, « Kirgat Jairam t'excusera par amour pour son parent Isaac. Adieu. Cependant, écoute, brave jeune homme, » s'écria-t-il en se retournant, « ne te risque pas trop dans ce fou pêle-mêle. Je ne songe ni au coursier ni à la côte de maille, mais à ta propre vie et à tes membres. »
« Grand merci de ton avis, » dit le pèlerin en souriant. « Je profiterai de ta courtoisie. Et j'aurai bien du malheur si je ne te fais pas compensation. »
Ils se séparèrent et prirent chacun une route différente pour entrer dans la ville de Sheffield. Chapitre 7. La condition de la nation anglaise était à cette époque assez misérable. Le roi Richard était absent et prisonnier au pouvoir du perfide et cruel duc d'Autriche. Le lieu même de sa captivité était ignoré, et son sort n'était connu qu'imparfaitement de la plupart de ses sujets, qui, pendant ce temps, étaient livrés à toute espèce d'oppresseurs subalternes. Le prince Jean, ligué avec le roi de France, le mortel ennemi de Richard Cœur de Lion, mettait en usage toute son influence auprès du duc d'Autriche pour prolonger la captivité de son frère Richard, à qui il était redevable de tant de faveurs. Il fortifiait en même temps son parti dans le royaume, dont il se proposait de disputer la succession, si le roi venait à mourir, à l'héritier légitime. Arthur, duc de Bretagne, fils de Geoffroy Plantagenet, frère cadet de Richard, mais l'aîné de Jean. On sait qu'il effectua depuis cette usurpation. Son caractère léger, libertin et perfide attacha facilement à sa faction non seulement ceux qui avaient quelque chose à redouter du ressentiment de Richard pour des menées criminelles pendant son absence, mais encore la classe nombreuse de ces hommes pervers et résolus que les croisades allaient rejeter dans le pays, et qui s'étaient perfectionnés dans tous les vices de l'Orient. Il y en avait encore qui, ayant dissipé leur patrimoine, avaient le caractère aigri et dont les seules espérances reposaient sur le butin d'une révolte. À ces causes de détresse et d'appréhension publique, il faut ajouter cette multitude d'outlaws qui, poussés au désespoir par l'oppression de la noblesse féodale et la sévérité des lois frontières, s'étaient réunis en bandes nombreuses, occupaient les forêts et les landes, et défiaient les lois et ceux qui s'étaient chargés de les appliquer. Les nobles mêmes, fortifiés dans leurs châteaux, faisaient les petits souverains dans leurs domaines, et se mettaient à la tête d'autres bandes presque aussi illégales et aussi oppressives que celles des spoliateurs avoués. Pour entretenir ces troupes, ainsi que le luxe extravagant que leur orgueil les portait à déployer, ces seigneurs empruntaient des sommes d'argent aux Juifs à grande usure, ce qui rongeait leurs propriétés comme des cancers qui restaient incurables, jusqu'à ce que l'occasion se présentât de s'en délivrer en exerçant sur leurs créanciers des actes de violence inexcusables. Sous les divers fardeaux résultant de ce malheureux état de choses, le peuple d'Angleterre souffrait beaucoup dans le temps présent et redoutait dans l'avenir des souffrances encore plus terribles. Pour surcroît de misère, une maladie épidémique, d'une nature dangereuse, s'était répandue dans le pays et, rendue plus virulente par la malpropreté, par la mauvaise nourriture et par le misérable logement des basses classes, enlevait un grand nombre d'habitants, dont le sort était envié par les survivants à cause des maux auxquels ils restaient eux-mêmes exposés. Cependant, au milieu de ces détresses accumulées, les pauvres aussi bien que les riches, la roture aussi bien que la noblesse, à la veille d'un tournoi, ce qui était un des grands spectacles de ce siècle, éprouvèrent le même intérêt qu'un citoyen de Madrid, à demi mort de faim et à qui il ne reste pas un réel pour acheter du pain à sa famille, en éprouve au spectacle d'une course de taureaux. Aucun devoir parmi les jeunes gens, aucune infirmité chez les vieillards ne pourrait empêcher les Espagnols d'assister à ces fêtes publiques. La passe d'armes, comme on l'appelait alors, devait avoir lieu à Asby, dans le comté de Leicester, parce que les champions de la plus haute renommée allaient y tenir la lice en présence du prince Jean lui-même, qui voulait honorer ainsi ce tournoi. Cette passe d'armes avait donc attiré l'attention générale, et une immense foule de gens de toutes conditions accourut dès le matin au lieu désigné pour le combat. Ce spectacle était des plus pittoresques. Sur la lisière d'un bois, situé à moins d'un mille de la ville d'Ashby, s'étendait une vaste prairie du plus beau et du plus rare gazon, entourée d'un côté par la forêt et bordée de l'autre par des chênes isolés dont quelques-uns avaient acquis un volume immense. Le terrain, comme s'il eût été façonné exprès pour les évolutions militaires qui se préparaient, descendait de tous côtés en pente jusqu'à un espace nivelé dont on avait fait un enclos pour la lisse au moyen de fortes palissades. Cet espace occupait une surface d'un quart de mille en longueur, sur un huitième de mille environ en largeur. La forme de cet enclos était celle d'un carré oblong, sauf que les coins en étaient considérablement arrondis, afin d'offrir plus de commodité aux spectateurs. Les entrées, pour le passage des combattants, situées aux extrémités du sud et du nord de la lisse, étaient accessibles à l'aide de fortes portes de bois, par lesquelles deux cavaliers pouvaient entrer de front. À chacune de ces entrées se tenaient deux héros accompagnés de six trompettes, d'autant de poursuivants et d'un corps nombreux d'hommes d'armes destinés à maintenir l'ordre et à s'assurer de la qualité des chevaliers qui se présentaient pour prendre part à cette joute militaire. Sur une plateforme située au-delà de l'ouverture du sud, formée par une élévation naturelle du terrain, on découvrait cinq magnifiques pavillons ornés de bannières rouges et noires, qui étaient les couleurs adoptées par les cinq chevaliers tenants. Les cordes des tentes étaient de la même couleur. Devant chaque pavillon était suspendu l'écu du chevalier qui l'occupait, et à côté de l'écu se tenait son écuyer, singulièrement travesti, en faune ou en quelque autre être fantastique, selon le goût de son maître et le rôle qu'il lui plaisait de prendre pendant la joute. Le pavillon du centre, comme place d'honneur, avait été assigné à Brillant de Boisguibert, dont la renommée dans tous les exercices de la chevalerie, ainsi que ses relations avec tous les chevaliers qui devaient concourir à cette passe d'armes, l'avait fait recevoir avec empressement parmi les chevaliers tenants, qu'il avait même proclamé leur chef et leur guide, bien qu'il ne les eût rejoints que récemment. D'un côté de sa tente était dressée celle de Réginald Front de Bœuf et de Philippe de Malvoisin, et de l'autre côté était le pavillon de Hugues de Grandménil, noble baron du voisinage, dont un des aïeux avait été grand intendant d'Angleterre, au temps du Conquérant et de son fils Guillaume le Roux. Ralph de Vipon, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, qui possédait quelques anciennes propriétés dans un endroit nommé Ether, près d'Asby de la Souche, occupait le cinquième pavillon. À l'entrée de la lisse, un passage large de 10 toises conduisait en pente douce à la place où étaient les pavillons. Ce chemin était muni d'une palissade de chaque côté, ainsi que l'esplanade devant les pavillons, le tout gardé par des hommes d'armes. L'ouverture au nord de la lisse formait une entrée semblable, de 30 pieds de large, à l'extrémité de laquelle était un grand espace clos pour les chevaliers qui se disposaient à entrer en lisse contre les tenants. Au-delà de cet espace étaient des tentes avec des vivres et des rafraîchissements de toute espèce, avec des armuriers, des maréchaux ferrants et autres serviteurs prêts à offrir leurs services partout où l'on en aurait besoin. L'extérieur de la lisse était en partie occupé par les galeries provisoires, couvertes de tapisseries et de tentures, et muni de coussins pour la commodité des dames et des seigneurs qu'on s'attendait à voir au tournoi. Un étroit espace entre ces galeries et la lisse était réservé à la milice bourgeoise des campagnes et aux spectateurs d'un ordre supérieur aux basses classes et aurait pu se comparer au parterre d'un théâtre. La multitude mélangée stationnait sur de grands talus de gazon préparés à cet effet, ce qui, avec l'aide de l'élévation naturelle du terrain, la mettait à même de dominer les galeries et de jouir d'une belle vue sur la lisse. Outre la commodité qu'offraient ces diverses places, des centaines de spectateurs avaient grimpé sur les branches des arbres qui entouraient la prairie et le clocher même d'une église rurale, située à quelque distance de là, était encombré de spectateurs. et il ne reste à parler, après ces dispositions générales, que d'une galerie située au centre même, du côté oriental de la lisse, et, par conséquent, tout vis-à-vis de l'endroit où l'on attendait le choc du combat, qui était plus élevé que les autres galeries, plus richement décoré et orné d'une espèce de trône surmonté d'un dais où brillaient les armes royales. Des écuyers, des pages et des yeomen, ou milices bourgeoises, en riche livrée, se tenaient autour de cette place d'honneur, destinée au prince Jean et à sa suite. Vis-à-vis de cette galerie royale, on en voyait une autre, au même niveau, sur le côté occidental de la lisse, et décorée plus gaiement, quoique avec moins de luxe que celle réservée au prince. Un cortège de pages et de jeunes filles, les plus beaux et les plus belles qu'on avait pu trouver, parés d'un costume de fantaisie vert et rose, entouraient un trône orné des mêmes couleurs. Parmi les guidons et les bannières sur lesquels se voyaient des cœurs blessés, des cœurs brûlants, des cœurs saignants, des arcs et des carquois, et tous les emblèmes ordinaires attribués au triomphe de Cupidon, une inscription étincelante faisait connaître aux spectateurs que cette place d'honneur était destinée à la « Roanne de la beauté et des amours ». Mais personne ne pouvait deviner le nom de la dame, qui devait, dans cette occasion, représenter la reine de la beauté et des amours. Sur ces entrefaites, les spectateurs de toutes les classes arrivaient en foule pour occuper leurs places respectives, non sans se disputer relativement à celles qu'ils avaient le droit de prendre. Quelques-unes de ces disputes furent tranchées sans cérémonie par les hommes d'armes, et les manches de leurs haches d'armes et les pommeaux de leurs épées furent employés comme arguments pour convaincre les plus récalcitrants. D'autres, produites par les prétentions rivales de gens d'un rang plus élevé, furent résolues par les héros ou par les deux maréchaux du camp, Guillaume de Wiville et Stephen de Martival, qui, armés de toutes pièces, parcouraient la lisse pour maintenir le bon ordre parmi les spectateurs. Peu à peu, les galeries s'emplirent de chevaliers et de seigneurs en robes de paix, dont les longs manteaux aux riches couleurs contrastaient avec les habits plus gais et plus splendides des dames, qui, en nombre encore plus grand que les hommes eux-mêmes, s'étaient réunis pour jouir d'un spectacle que l'on aurait pu croire trop sanglant et trop périlleux cependant pour plaire à ce sexe. Le moins élevé des deux enclos se trouva bientôt rempli par des bourgeois et des citoyens notables et par ceux de la petite noblesse qui, par modestie, par pauvreté ou par des titres mal établis, ne pouvaient prétendre à des places plus distinguées. Ce fut nécessairement parmi ces derniers que les députés pour la préséance se multiplièrent. « Chien de mécréant !» dit un vieillard dont la tunique râpée attestait la pauvreté, de même que son épée, son poignard et sa chaîne d'or indiquaient ses prétentions à la noblesse. « Engeance de louve ! Oses-tu bien heurter un chrétien ? Un gentilhomme normand du sang de Montdidier ?» Cette virulente apostrophe s'adressait à notre connaissance Isaac, qui, richement et même splendidement habillé en houppelande ornée de dentelles et doublée de fourrure, s'efforçait de faire faire de la place au premier rang sur la galerie pour sa fille, la belle Rebecca, qui était venue le rejoindre à Asby et qui était maintenant appuyée au bras de son père, toute terrifiée par la colère du peuple, que l'audace de son père paraissait avoir excité de toutes parts. Mais Isaac, bien que nous l'ayons vu plus que timide en d'autres occasions, savait bien qu'à présent il n'avait rien à craindre. Ce n'était pas dans des lieux de rassemblement général où se trouvaient leurs égaux que des seigneurs avares ou malveillants eussent osé le maltraiter. Dans ces assemblées, les Juifs étaient sous la protection de la loi commune. Et si cette garantie n'était pas suffisante, il arrivait ordinairement que, parmi les personnes réunies, se trouvaient quelques barons qui, par des motifs d'intérêt,
était disposé à lui servir de protecteur. Dans le cas présent, Isaac se sentait plus confiant que de coutume, car il savait bien que le prince Jean était en ce moment occupé à négocier un emprunt considérable aux Juifs d'York en leur donnant pour gage certains joyaux et domaines. La part qu'Isaac avait lui-même dans cette transaction était considérable, et il n'ignorait pas non plus que le prince désirait vivement conclure cette affaire, et que, dans la situation où il se trouvait, la protection royale lui était acquise. Enhardi par ces réflexions, le juif poursuivit son but et bouscula le normand chrétien, sans respect pour ses ancêtres, sa qualité aristocratique et sa religion. Cependant, les plaintes du vieillard excitèrent l'indignation des spectateurs. Un d'entre eux, un yeoman, robuste et bien taillé, portant un costume de drap vert de Lincoln, ayant 12 flèches passées dans sa ceinture, un baudrier et une plaque d'argent, et tenant dans sa main un arc de 6 pieds de haut, se retourna brusquement. Et, tandis que son visage, auquel une constante exposition à l'air avait donné la couleur d'une noisette, devenait encore plus sombre par la colère, il conseilla aux Juifs de se rappeler que toutes les richesses qu'il avait acquises en suçant le sang de ses malheureuses victimes l'avaient gonflé comme une araignée, qui, tant qu'elle reste dans son coin, est inaperçue, mais qu'on écrase dès qu'elle se risque au jour. Cette indignation, exprimée en anglo-normand, d'une voix ferme et d'un ton féroce, fit reculer le Juif. Et il est probable qu'il se serait retiré tout à fait d'un voisinage dangereux si l'attention générale n'eût été soudainement distraite par l'apparition subite du prince Jean, qui en ce moment entrait dans la lice, suivi d'un cortège nombreux, composé en partie de laïcs, en partie de clercs, aussi légers dans leurs costumes et aussi gais dans leur maintien que leurs compagnons. Parmi ces derniers était le prieur de Jorvaux, dans la plus galante toilette qu'un ministre d'État osa montrer. L'or et la fourrure foisonnaient dans ses vêtements, et les pointes de ses bottines, outrant la mode ridicule du temps, se relevaient de manière qu'il lui fallait les attacher, non pas à ses genoux, mais à sa ceinture, et qu'elles l'empêchaient effectivement de mettre le pied dans l'étrier. Cela, toutefois, n'était qu'une petite incommodité pour le galant abbé, qui probablement se réjouissait de l'occasion de montrer son adresse d'écuyer devant tant de spectateurs, surtout du beau sexe, en se dispensant de l'usage de ces soutiens dont se servent les timides cavaliers. Le reste du cortège du prince Jean se composait des principaux chefs de ses troupes mercenaires, de quelques barons pillards, de libertins attachés à sa cour, et de plusieurs chevaliers du Temple et de Saint-Jean. On peut remarquer ici que les chevaliers de ces deux ordres étaient considérés comme hostiles au roi Richard, parce qu'ils avaient épousé la cause de Philippe de France dans la longue série de contestations qui avait eu lieu en Palestine entre ce monarque et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. On savait bien que le résultat de cette discorde avait été que les victoires réitérées de Richard étaient restées sans fruit, que ses tentatives romanesques d'assiéger Jérusalem avaient été déjouées et que toute la gloire qu'il s'était acquise n'avait abouti qu'à une trêve incertaine avec le sultan Saladin. Avec la même politique qui avait présidé à la conduite de leurs frères dans la Terre Sainte, les Templiers et les Hospitaliers d'Angleterre et de Normandie s'étaient attachés au parti du prince Jean, n'ayant que peu de motifs pour désirer le retour en Angleterre de Richard ou l'avènement au trône d'Arthur, son héritier légitime. Pour la raison contraire, le prince Jean haïssait et méprisait le petit nombre de familles saxonnes de distinction qui subsistaient encore en Angleterre, et ne laissait échapper aucune occasion de les mortifier et de les injurier, sachant bien que sa personne et ses prétentions leur étaient insupportables, ainsi qu'à la majorité du peuple anglais,
qui appréhendait d'autres innovations touchant ses droits et ses libertés, de la part d'un souverain dont les dispositions étaient aussi licencieuses et aussi despotiques que celles de Jean. Accompagné de ce galant équipage, et splendidement vêtu de cramoisi et d'or, portant sur son poing un faucon, et la tête recouverte d'un riche bonnet de fourrure orné d'un cercle de pierres précieuses, d'où s'échappait sa longue chevelure bouclée qui inondait ses épaules, le prince Jean, monté sur un palefroy gris plein de feu, caracola dans la lice à la tête de sa suite joviale, riant aux éclats et examinant avec une impertinence toute royale les beautés qui brillaient aux galeries élevées. Ceux qui remarquaient dans la physionomie du prince une arrogance libertine, mêlée de hauteur et d'indifférence pour les sentiments d'autrui, ne pouvaient cependant refuser à la figure cette sorte de beauté qui appartient à des traits francs et ouverts, bien formés par la nature, que l'art avait assoupli à toutes les règles de la courtoisie, et qui cependant avait cette franchise et cette honnêteté qui font dédaigner et cacher les mouvements de l'âme. Une telle expression est souvent prise pour une mâle franchise, tandis qu'à la vérité, elle ne provient que de l'insouciance, d'une disposition qui se prévaut de la supériorité de sa naissance, de sa richesse ou de quelque autre avantage accidentel n'ayant aucun rapport avec le mérite personnel. Tous ceux qui ne pensaient pas si profondément, c'est-à-dire une proportion de 100 contre 1, applaudissaient avec transport à la splendeur du « Rhénaud » ou « Fraise en fourrure » du prince Jean, à la richesse de son manteau doublé d'hermine la plus précieuse, à ses bottes en maroquin, à ses éperons d'or et à la grâce avec laquelle il maniait son destrier. En caracolant joyeusement autour de la lice, l'attention du prince fut attirée par l'émotion encore visible qu'avait produite le mouvement présomptueux d'Isaac pour s'emparer d'une des premières places de l'assemblée. Le coup d'œil rapide du prince Jean lui fit reconnaître à l'instant le juif, mais il fut bien plus agréablement impressionné par la vue de la belle fille de Sion, qui, épouvantée par le tumulte, se cramponnait au bras de son vieux père. Les charmes de Rebecca auraient pu, à la vérité, se comparer à ceux des plus orgueilleuses beautés de l'Angleterre, même aux yeux d'un connaisseur aussi perspicace que le prince Jean. Ses formes étaient d'une régularité exquise que rehaussait encore une espèce de costume oriental qu'elle portait selon la mode des femmes de son pays. Un turban de soie jaune s'harmonisait parfaitement avec son teint foncé, l'éclat de ses yeux, la magnifique arcade de ses sourcils, son nez aquilin, ses dents blanches comme des perles et la profusion de ses cheveux noirs, arrangés en boucles ondoyantes qui descendaient sur un cou et un sein d'un modelé parfait, qui laissaient à découvert une simarre de soie de Perse ornée de fleurs dans leur couleur naturelle et brodée sur un fond pourpre. Toutes ces grâces de la nature et de l'art composaient un ensemble qui ne le cédait en rien aux plus belles dames ou damoiselles qui l'entouraient. Il est vrai qu'au nombre des agrafes d'or enrichies de perles qui fermaient son corsage depuis la gorge jusqu'à la ceinture, les trois supérieures étaient restées ouvertes à cause de la chaleur, ce qui embellissait fort la vue à laquelle nous avons fait allusion. Un collier de diamants, avec des pendants d'oreilles d'un prix inestimable, devenait aussi plus visible par la même raison. Une plume d'autruche, attachée à son turban par une agrafe de brillants, ajoutait encore aux traits de la belle juive, que les dames orgueilleuses assises au-dessus d'elle faisaient semblant de mépriser et de tourner en ridicule, mais qui était enviée secrètement par celle-là même qui affectait de la critiquer. « Par le crâne chauve d'Abraham, » dit le prince Jean, « il faut que cette juive là-bas soit un modèle de beauté aussi parfait que celle dont les charmes tournèrent la tête du plus sage de tous les rois. Qu'en dis-tu, prieur Aymer ?
par le temple de ce sage roi, que notre très sage frère Richard n'a pu recouvrer. Voilà la fiancée même du cantique des cantiques.
La rose de Saharan est le lys de la vallée, répondit le prieur d'un ton nasillard. Mais que votre grâce se souvienne que ce n'est qu'une juive.
Oui, ajouta le prince Jean sans faire attention à ce qu'il disait. Et voilà aussi mon maman d'iniquité, le marquis des Mares, le baron des Besans, disputant sa place à des chiens sans argent, qui ont des manteaux râpés et pas une couronne dans la poche pour empêcher le diable d'y danser. Par le corps de Saint-Mars, mon prince des subsides avec sa jolie juive aura un siège dans la galerie.
Qu'est-elle, Isaac? Ta femme ou ta fille, cette houri orientale que tu serres sous ton bras comme si c'était ton coffre-fort?
Demanda le prince Jean.
Ma fille Rebecca, s'il plaît à votre grâce, répliqua Isaac en saluant profondément, sans se laisser intimider par la salutation du prince, dans laquelle il voyait toutefois au moins autant d'ironie que de politesse.
Tu es d'autant plus sage, dit Jean avec un éclat de rire auquel s'associa obséquieusement sa suite. Mais que ce soit ta fille ou ta femme, il faut l'honorer selon sa beauté et son mérite. Qui est assis là-haut ? Continua-t-il en levant les yeux vers la galerie.
Ah, ce sont des manants saxons qui s'étendent nonchalamment tout de leur long. Hors de là, qu'ils se servent pour faire place à mon prince des usuriers et à sa jolie fille. J'apprendrai à ces vilains qu'ils doivent partager les places élevées de la synagogue avec ceux à qui, en effet, la synagogue appartient.
Ce qui occupait la galerie, à laquelle ce discours injurieux s'adressait, composait la famille de Cédric le Saxon et celle de son parent et allié Athelstan de Königsbourg, personnage qui, vu sa descendance des derniers rois saxons d'Angleterre, était l'objet du plus grand respect de la part des habitants saxons du nord de ce royaume. Mais, en même temps que le sang de cette antique race royale, beaucoup de leurs défauts avaient été légués à Athelstan. Il était d'un extérieur agréable, puissant et vigoureux, et dans la fleur de l'âge, mais sans animation dans ses traits, avec l'œil terne, les sourcils lourds. Tous ses mouvements étaient lents et inertes, et sa résolution si tardive que le sobriquet d'un de ses ancêtres lui fut conféré, et qu'on l'appelait d'habitude Athelstan le nonchalant. Ses amis, et il en avait beaucoup qui, comme Cédric, lui étaient fortement attachés, prétendaient que ce caractère paresseux ne provenait pas du manque de courage, mais seulement du manque de décision. D'autres alléguaient que le vice héréditaire de l'ivrognerie avait absorbé ses facultés, qui n'étaient déjà pas très brillantes, et que le courage passif et la douce bienveillance qui lui restaient n'étaient que l'allié d'un caractère qui aurait pu mériter des éloges, mais dont les parties les plus précieuses s'étaient évaporées par une longue habitude de brutale débauche. Ce fut à ce personnage, tel que nous venons de le dépeindre, que le prince adressa son ordre impérieux de faire place à Isaac et à Rebecca. Athelstan, tout stupéfait d'un ordre que les mœurs et les préjugés du temps rendaient si insultant, ne voulut pas obéir. Indécis de savoir comment résister, il n'opposa que le vis inertiae à la volonté de Jean, et sans bouger, sans faire le moindre signe d'obéissance, il ouvrit ses grands yeux gris et regarda le prince avec un ébahissement profondément grotesque. Mais Jean, impatienté, n'entendit pas en rester là.
« Ce porcher saxon, reprit-il, est endormi ou il ne fait pas attention à moi? Piquez-le avec votre lance de Bracy, dit-il à un chevalier qui était près de lui et qui commandait une troupe de libres compagnons ou condottieri, c'est-à-dire de mercenaires, n'appartenant à aucune nation spéciale, mais qui s'attachaient temporairement au prince qui les payait. Il y eut un murmure, même parmi les gens de la suite du prince Jean, mais de Bracy, dont la profession l'affranchissait de tout scrupule, allongea sa lance par-dessus l'espace entre la galerie et la lisse et aurait exécuté les ordres du prince avant que le nonchalant Athelstan eût recouvré assez de présence d'esprit pour mettre sa personne hors de la portée de l'arme. Si Cédric, aussi prompt que son compagnon était lent, n'eût, avec la rapidité de l'éclair, tiré hors du fourreau la courte épée qu'il portait et tranché d'un seul coup la hampe de la lance. Le sang monta au visage du prince Jean. Il jura un de ses plus terribles serments, et il allait proférer quelques menaces équivalentes en violence quand il fut détourné de son dessein, en partie par sa suite, qui l'entoura, le conjura d'être patient, et en partie par un cri général parti de la foule, qui applaudissait hautement à la conduite courageuse de Cédric. Le prince roula ses yeux avec indignation, comme s'il eût cherché une victime plus facile. Et, rencontrant par hasard le regard assuré du même archer qu'il avait déjà remarqué et qui paraissait persister à applaudir en dépit du sombre coup d'œil que le prince lança sur lui, il demanda pour quelle raison il acclamait ainsi. « Je crie toujours « Hurrah !» dit le yeoman, « quand je vois un beau coup vaillamment porté. »« Ah oui !» demanda le prince. « En ce cas, tu peux toucher le noir toi-même, que je pense. » « Je toucherai le but d'un forestier donné par un forestier, pourvu qu'il soit à bonne distance, » dit le yeoman. « Il toucherait le but de Wat Tyrell à 100 yards, » dit une voix du milieu de la foule, mais personne ne put deviner d'où elle était partie. Cette allusion au sort de Guillaume le Roux, son grand-père, alarma et irrita le prince Jean. Il se donna cependant cette satisfaction à lui-même de commander à ses hommes d'armes, qui entouraient la lice, de ne point perdre de vue ce fanfaron, et il désigna le yeoman. « Par Saint Grisel, ajouta-t-il, nous aurons une preuve de l'adresse de cet homme, qui est si prompt à donner son avis sur les actions des autres. » « Je n'entends pas fuir les preuves, » dit le yeoman avec la tranquillité qui formait le caractère principal de son maintien. « En attendant, levez-vous, messieurs les Saxons, » dit le prince Altier, « car, par la lumière du ciel, puisque je l'ai dit, le juif aura une place au milieu de vous. » « Non pas, s'il plaît à votre grâce, nous sommes indignes de nous mêler avec les chefs de la terre, » dit le juif, car son ambition pour la préséance, bien qu'elle l'eût poussé à disputer sa place avec le pauvre héritier des Montdidier, n'allait pas jusqu'à le pousser à faire invasion dans les privilèges des riches Saxons. « Lève-toi, chien d'infidèle, quand je te le commande, » dit le prince Jean, « ou je te ferai arracher ta peau noire, et je la ferai tanner pour confectionner une selle à mon cheval. » Ainsi stimulé, le juif se mit à monter les degrés étroits et élevés par lesquels on arrivait à la galerie. « Voyons un peu qui osera l'arrêter, » dit le prince en fixant son œil sur Cédric, dont l'attitude dénonçait l'intention de lancer le juif la tête en bas. Cette catastrophe fut prévenue par le bouffon Wamba, qui, s'élançant entre son maître et Isaac, s'écria, répondant au défi du prince, « Par Dieu, ce sera moi !» Il opposa à la barbe du juif, et en manière de bouclier, un morceau de jambon qu'il tira de dessous son manteau, et dont sans doute il s'était muni lui-même de peur que le tournoi, durant trop longtemps, ne le forçât à un plus long jeûne que son estomac ne pouvait le supporter. Se trouvant nez à nez avec l'abomination de sa tribu, tandis que le bouffon faisait tournoyer en même temps son épée de bois au-dessus de sa tête, le juif recula, perdit l'équilibre et roula sur les degrés, à la grande jubilation des spectateurs, qui partirent d'un immense éclat de rire, auquel le prince Jean et sa suite se joignirent cordialement. « À moi le prix, cousin prince !» s'écria Wamba. « J'ai vaincu mon ennemi en loyal combat, avec l'épée et le bouclier » ajouta-t-il en brandissant le jambon d'une main et l'épée de bois de l'autre. « Et qui es-tu ? Et que fais-tu, vaillant champion ? demanda le prince Jean, riant toujours. « Un fou en ligne directe, » répondit le bouffon. « Je suis Wamba, fils de Witless, qui était fils de Witherbrain, lequel était fils d'un alderman. » « Qu'on fasse place aux Juifs sur le devant du cercle inférieur, » dit le prince Jean, qui n'était peut-être pas fâché de saisir une occasion de ne pas persister dans son premier dessein, car ce serait contraire aux lois de la chevalerie de placer les vaincus avec les vainqueurs. « Il sera bien pis encore de mettre l'usurier avec le fou et le Juif avec le jambon, » dit Wamba. « Grand merci, bon compagnon, » dit le prince Jean. « Tu me plais. Allons, Isaac, donne-moi une poignée de besan. » Comme le Juif, ébahi de la demande, n'osait pas refuser, et ne voulant pas consentir, furetait de la main dans le sac fourré qui pendait à sa ceinture, et cherchait peut-être à se rendre compte combien peu de pièces pouvaient passer pour une poignée, le prince s'inclina sur le cou de son cheval et trancha l'hésitation d'Isaac en saisissant la sacoche même, et jeta à Wamba quelques-unes des pièces d'or qu'elle contenait. Continua son chemin dans la lice, abandonnant le Juif aux huées de ceux qui l'entouraient, et recevant lui-même autant de bravos que s'il venait d'accomplir la plus honnête et la plus honorable action.